bonsoir à tous et à tous. Donc je suis effectivement Laurence Moisy, moi je suis géographe et je travaille dans une école, une grande école, là qui est à Angers, donc à l'université. Je travaille sur le tourisme. Donc quand on disait tout à l'heure que non seulement les vacances c'est plutôt quelque chose de sympathique, moi j'ai la chance, y compris dans ma vie professionnelle, en fait, de parler de vacances et de bouger. Alors, je vais évoquer avec vous ce soir la question des vacances et puis la place des enfants et des parents dans le cadre des vacances. Et donc, je suis contente, en fait, que derrière, là, tout caché, il y a un petit, parce que, à limite, si tout à l'heure, il veut dire que ce que j'ai dit, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il fait, pourquoi pas, hein, ça sera tout aussi intéressant. Et donc, je vais baser une grande partie de ce que je vais vous raconter sur des enquêtes que j'ai faites, et une en particulier faite l'année dernière, dans un cadre bien particulier, hein, dans un cadre de vacances, qui est le camping. Donc, c'est-à-dire un cadre qui est typique des vacances et des vacances populaires. Hein. Le camping, c'est le mode d'hébergement privilégié aujourd'hui par les familles en vacances. Et je me suis intéressée à la question donc, de la manière dont les enfants et les parents vivaient leur séjour au camping, et aussi de ce qu'ils en retiraient. Donc on parle d'apprentissage ou de compétences quand on veut utiliser des mots sérieux. Et ce qui m'intéressait moi particulièrement là, c'est que donc on s'intéresse à l'acquisition de compétences et de savoir, y compris de savoir relationnel, pour les enfants et pour les parents, dans un cadre qui n'est pas un cadre traditionnel du savoir ou de l'apprentissage. C'est même souvent vu comme un cadre où en fait il ne se passe rien d'autre que du plaisir, et parfois du plaisir un peu consumériste. Et on va voir que c'est loin d'être aussi simple que ça. Donc le travail a consisté à regarder comment des familles vivaient leurs vacances, comment les parents et les enfants se positionnaient les uns par rapport aux autres, et puis à discuter aussi, à la fois avec les enfants et à la fois avec les parents, et puis aussi, mais j'en parlerai moins ce soir, avec les professionnels qui les accueillaient, pour voir en fait un petit peu hein, ce que les uns et les autres pensaient de ce qu'ils allaient retirer des séjours. Donc voilà un petit peu pour fixer le cadre sur lequel repose ce que je vais vous raconter. Alors, ce qu'il est apparu, et puis si jamais vous voulez plus de précisions sur la manière dont on a travaillé ou autre, hein, tout à l'heure, vous n'hésitez pas à revenir dessus. Donc en fait, ce qui est apparu là, pour directement rentrer dans le cadre de la thématique retenue aujourd'hui, c'est qu'il semble que les familles ont passé de bonnes vacances, je dirais à partir du moment où elles se sont séparées, à partir du moment où chacun des membres de la famille a vécu sa vie, chacun de son côté. Donc parmi les familles avec lesquelles on s'est entretenu, il y avait des familles, alors que je précise quand même, c'était toutes des familles qui étaient déjà parties. Donc on n'était pas du tout dans le cadre de premier départ, et on n'était pas non plus dans le cadre de vacances accompagnées, comme par exemple il peut y avoir là des séjours accompagnés par la maison de quartier. Donc les familles étaient venues toutes seules en vacances, et ce n'était pas la première fois qu'elles partaient en vacances. Donc ça va jouer aussi, ça va avoir son importance dans la suite de ce que je vais raconter. Donc il est apparu deux grandes catégories de manières de vivre les vacances, je dirais. D'un côté, quelques familles un peu familles poules, hein, avec des mamans qui... Alors c'était plutôt les mamans qui ont exprimé ça, mais parce que aussi peut-être c'était plutôt les mamans qui facilement ont répondu ont participé aux conversations, hein, les papas un petit peu moins. Ce qui ne veut pas dire que les papas n'étaient pas forcément des papas poules aussi. Mais donc, dans ce premier cadre de famille-là, on avait des familles où les mamans voulaient toujours avoir un œil sur, sur leurs enfants. Savoir où ils étaient, les avoir à portée de vue. On avait des familles aussi qui avaient choisi l'emplacement du camping à proximité des aires de jeu des enfants, de manière à ce que si les enfants voulaient aller jouer, on les voyait tout le temps. On pouvait les surveiller du coin de l'œil. Donc quand on s'est intéressé à la manière dont les familles avaient vécu leurs vacances et puis à ce qu'elles avaient l'impression qu'elles en retiraient, dans ces familles-là, il est apparu que c'était les familles qui avaient l'impression d'avoir le moins appris de choses, entre guillemets, du séjour en vacances, du séjour en camping. C'est-à-dire qu'on a l'impression que à partir du moment où la famille est restée très très proche, les membres de la famille sont restés très très proches les uns des autres, ils ont en fait vécu, je ne vais pas dire les uns sur les autres parce que c'est un peu excessif, le camping c'est quand même un espace relativement ouvert, mais ils ont maintenu en fait dans le camping pratiquement les mêmes modes de fonctionnement que ceux qu'ils avaient à la maison. Donc ils ont maintenu en vacances les mêmes modalités de fonctionnement que celles qu'elles avaient quand elles étaient à la maison. Et quand on compare avec la manière dont ont vécu leurs vacances l'autre groupe de familles, où là, on avait des parents et des enfants beaucoup plus autonomes, avec un cas en particulier de famille où c'était l'extrême opposé de celle que je viens de décrire, donc des familles où chacun des membres du groupe avait ses propres activités. La mère faisait ses activités, le père faisait ses activités, les enfants faisaient leurs activités. On aurait pu croire qu'en fait, ils ne se voyaient pas du tout. Ils étaient arrivés ensemble le premier jour et ils allaient repartir ensemble le dernier jour. Mais entre-temps, ils allaient à peine se voir. C'était pas ça, évidemment. Mais on avait donc ces familles-là où il y avait des moments ensemble. Les repas étaient pris ensemble. Les activités le soir étaient prises ensemble, mais ce qui se passait dans la journée, en fait, chacun vivait sa vie. Et quand on est passé à la deuxième phase de l'enquête, donc au-delà de cette partie uniquement descriptive des activités, on s'est rendu compte hein, de ces différentes manières de vivre l'espace et le temps, on s'est rendu compte que c'est chez ces familles-là que le discours était le plus riche sur ce qu'ils retiraient ou ce qu'elles retiraient des vacances. Donc il semblerait que quand on accepte de laisser partir un petit peu les enfants, de les laisser vivre des choses tout seuls pendant leurs vacances, c'est là où ensuite le discours sur les compétences acquises est le plus riche, y compris chez les enfants, parce que la deuxième phase de l'enquête consistait à demander à la fois aux parents et à la fois aux enfants ce que les enfants allaient avoir appris. En quoi ils allaient avoir grandi à l'issue du séjour de vacances. Et donc il est apparu que quand on laissait à chacun une place bien, j'allais dire bien déterminée, mais ce n'est pas le bon terme, on laissait à chacun sa place pendant les vacances. Et la possibilité de vivre son séjour de vacances comme il le voulait, on avait ensuite des apprentissages sur le plan spatial, de la maîtrise de l'espace, mais des apprentissages aussi sur le plan relationnel, des apprentissages aussi où on laisse une part au père, donc au père PAIR, à ce que les autres, une place pour les autres dans le mécanisme de socialisation et dans les mécanismes d'apprentissage. Quand on laissait donc ces processus-là se dérouler, ce qu'on allait retirer du séjour de vacances était d'autant plus grand. Et donc très, très concrètement, par exemple, dans ces familles-là, on laissait les enfants, par exemple, découvrir tout seul le camping, découvrir tout seul, en vélo ou à pied, les différents espaces du camping. Alors quand on dit tout seul, ça veut dire sans papa-maman, parce qu'ils n'étaient jamais tout seuls. En fait, très très vite, les enfants se reconstituent un petit noyau avec les autres enfants présents dans le camping. Et c'est ces autres enfants-là qui sont peut-être arrivés quelques jours avant ou qui connaissaient mieux le camping parce qu'ils étaient déjà venus l'année passée, qui allaient montrer aux enfants de la famille quels étaient les endroits intéressants, quels étaient les endroits où en fait les adultes n'allaient pas venir les chercher et donc qui leur permettaient de découvrir les différents espaces. Alors, quand les familles vivaient, donc chaque membre de la famille vivait individuellement ou s'accordait des temps individuels, ça ne voulait pas dire que les enfants étaient complètement laissés à eux-mêmes. On a des familles qui ont mis en place des stratégies assez originales pour garder un lien avec les enfants. Il y a une famille en particulier qui utilisait un talkie-walkie qu'ils avaient confié à l'enfant. Et donc le deal, c'était, bah, écoute, ok, ce matin tu pars voir tes amis et tu fais ce que tu veux, nous on va à la plage, nous on va à la piscine ou autre, mais chacun son talkie-walkie, et si j'ai besoin de toi, tu réponds présent, et puis à telle heure on se retrouve pour manger. Et il est apparu, donc ça c'était un deuxième élément qui était assez significatif, il est apparu que les enfants acceptaient bien ce fil à la patte en fait, qu'ils avaient. Les parents voyaient ça comme une surveillance à distance des enfants. Les enfants ne le pensaient pas comme ça. Les enfants pensaient ça plutôt comme une responsabilisation qu'on leur donnait. Ils voyaient ça plutôt comme un témoignage de confiance que les parents avaient à leur endroit et intégraient complètement la possession de cet objet qui remplaçait le contrôle visuel parental du premier groupe de famille que j'évoquais, acceptaient complètement cet objet comme un objet qui faisait complètement partie de leur processus d'autonomisation, en fait, et même d'émancipation. Donc le même objet n'avait pas le même sens pour les parents ou pour les enfants. Donc les enfants s'étaient complètement réappropriés l'objet, mais dans une manière de vivre à eux leurs vacances, mais l'acceptaient complètement. Dans les familles étudiées, il n'y a jamais eu de conflit, enfin en tout cas, on n'a pas observé de conflit, et il ne nous a pas été rapporté de conflit sur les horaires, ils ne respectent pas les horaires, il faut se battre pour qu'ils viennent se coucher. Il n'y a jamais eu de choses comme ça dans les familles où chacun avait son espace. Il y a eu un petit peu plus de discours comme ça, un petit peu plus conflictuel, chez les familles qui conservaient exactement finalement le même mode de vie qu'à la maison. Donc ça, c'était un enseignement qui semblait intéressant aussi, c'est que quand pendant les vacances on s'accordait et on s'autorisait à avoir du temps pour soi, et que les parents s'autorisaient à vivre des moments de vacances pour eux sans être culpabilisés, parce que on voit bien que dans les premières familles, en fait, qui restaient très famille poule et maman poule, ce qu'il y avait derrière dans le discours des mamans, c'était aussi quelque part... alors, officiellement, c'était « il est trop petit, je ne veux pas le laisser, il est trop petit, il est timide ou elle est timide, voilà. » Ce qu'il y avait probablement derrière, c'est une idée de ce qu'était la bonne mère, de ce qu'était une bonne mère de famille, une bonne maman. C'est celle qui veille 24 heures sur 24 et à 100% de son temps sur son enfant pour l'empêcher d'être confronté à des risques, à des dangers ou autres. Donc ce qu'il y avait probablement derrière aussi, c'était une manière de vivre la parentalité et la maternité de la part des mères qui était probablement aussi très, très sclérosante et très probablement aussi très, je ne vais pas forcément dire douloureuse, mais très contraignante et avec énormément de pression. Dans ces familles mère-poule, où on ne voulait surtout pas s'autoriser à avoir un moment pour soi, et il fallait qu'on soit tout le temps à surveiller le petit, parce que si jamais il lui arrivait quelque chose, on s'en voudrait. Si jamais il se prenait, il chutait à vélo, il se bagarrait avec les autres enfants, enfin, c'était, on culpabiliserait. Donc derrière, il y a probablement aussi cette manière de vivre son statut de mère de famille, qui se jouait. Et ce statut de mère de famille, il était aussi probablement exactement le même et aussi difficile à vivre dans les vies quotidiennes qu'il ne l'était en vacances. Mais ça éclatait encore plus en vacances avec la confrontation avec les autres modes de vie des familles. Ce qui est apparu aussi, c'est que pour les familles qui laissaient plus de liberté et plus de place à leurs enfants pendant ce temps de vacances, on avait une sorte d'apprentissage pacifié, d'apprentissage sociaux qui, dans la vie quotidienne, posait problème. Dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, posait problème, mais qui apparemment, au camping, pendant ce temps de vacances, où on était peut-être un petit peu plus souple et un petit peu plus, on laissait un petit peu plus de liberté, se passait mieux. Donc, typiquement, c'était sur les tâches ménagères. On avait des familles qui nous disaient, à la maison, ils ne veulent rien faire, ils ne veulent pas mettre la table, ils ne veulent pas faire la vaisselle, ils ne participent pas aux tâches ménagères. Là, au camping, on a des enfants qui nous ont dit, bah oui, je vais faire la vaisselle, je ne le fais pas à la maison, mais là, je peux faire la vaisselle, et puis même, il y a des fois, j'y vais tout seul, et puis maman me rejoint après ou papa me rejoint après, je vais acheter le pain ou je vais réserver le court de tennis tout seul, alors qu'à la maison, donc c'est la croix et la bannière pour leur faire faire ces tâches ménagères ou participer à la vie de la famille. Ce qui veut dire aussi que probablement dans ce temps de vacances, quand on laisse un temps à chacun pour vivre ces moments, on voit aussi que se déroulent des apprentissages et des compétences qui dépassent de loin le simple mode de vacances, les simples modalités des vacances, et qui vont pouvoir être réinvestis ensuite dans la vie quotidienne et dans la vie de tous les jours. Donc en fait, ce sont des apprentissages, pardon, sociaux au sens plein du terme, qui vont pouvoir prendre place dans le temps de vacances, pour peu qu'on les laisse, enfin qu'on laisse le temps et la place aux enfants d'exercer ces apprentissages-là. Parce que les autres familles, plus famille poule, les mamans allaient faire la vaisselle. C'est elles qui rangeaient la tente ou qui rangeaient le mobil-home. Donc en fait, ce qui est apparu aussi, c'est que, et ça, peut-être que si les familles en avaient pris conscience, ces familles qui vivaient leurs vacances d'une manière finalement très stressée, en avaient pris conscience, c'est que si on laisse une place pour chacun, c'est pas uniquement se laisser une place pour prendre son plaisir de parent à soi pendant les vacances, mais au-delà de ça permet aussi à ces enfants de grandir, d'acquérir des compétences sociales et relationnelles, parce que ça veut dire aussi, oui, il y avait un autre exemple assez flagrant, c'est que au camping, ben, les enfants disaient bonjour aux voisins d'emplacement ou aux gens qu'ils croisaient, à vélo ou qu'ils croisaient à l'accueil, sans forcément que les parents leur aient dit qu'il faille dire bonjour. Mais probablement que là aussi, on a un apprentissage par les pairs. C'est-à-dire que les gamins avaient probablement vu les autres gens du camping se saluer, et donc, ben, ils disaient bonjour. Bonjour, au revoir, merci. Et donc, c'était aussi des apprentissages qui allaient pouvoir, on l'espère en tout cas, être réinvestis dans la vie quotidienne. Ce qui aurait été intéressant, c'est de revoir les mêmes familles 2 ou 3 mois après pour voir si à la maison, finalement, on continue à dire bonjour aux voisins ou aux gens dans la rue et à maintenir les mêmes types d'apprentissage. Un réinvestissement une pacification en tout cas des relations au sein de la famille, des compétences et des apprentissages sociaux et relationnels. Et puis la dernière grande catégorie d'apprentissage qui était apparue, c'était des compétences et une maîtrise de l'espace. Puisqu'on laissait les enfants se débrouiller tout seuls le matin ou l'après-midi dans le camping, eh bien en fait, on avait des enfants qui apprenaient à se repérer dans l'espace. Aucun des enfants interrogés ne nous a dit qu'ils étaient perdus dans le camping. Et c'était des campings assez grands, hein, qui avaient servi à l'étude. C'était des campings 3 à 5 étoiles et ce qu'on appelle les campings clubs. Donc, c'est-à-dire ces grands campings avec plusieurs piscines, avec des salles de spectacle, avec beaucoup d'animation. Donc, des campings qui avaient entre 250 et 650 emplacements. Donc, on est quand même sur... Il y a de quoi se perdre, quand même, dans cette catégorie-là. Mais en fait, on s'est rendu compte que les enfants avaient pris des repères Ils avaient une conscience quand même de l'espace, ils avaient pris des repères et aucun ne s'était perdu. Peut-être aussi que les parents les laissaient circuler dans cet espace parce que le camping, c'est pas comme un gîte rural. Le camping, c'est quand même un espace qui est fermé. Et que les parents avaient probablement l'idée que c'était un espace, mine de rien, relativement sécurisé. Il y a une barrière à l'entrée, il y a un accueil et une réception, et il y a des clôtures tout au long. Mais mine de rien, ces compétences spatiales, c'est quand même extrêmement important parce que tout à l'heure, avant le début du 42 minutes, j'étais en bas sur les causeries et je discutais avec une maman qui a l'habitude quand même d'aller en camping et qui disait que... Donc on parlait un petit peu comme ça. Et elle me disait que... Elle ne voulait pas trop laisser ses enfants partir parce que le camping, c'est grand et qu'il risque de se perdre. Ses enfants étaient quand même relativement grands. Il y en a, enfin, la fille en particulier avait une douzaine d'années. Donc on voit bien que ce lâcher prise, en fait, où on va laisser les enfants partir un petit peu et vivre un petit peu leur vie de leur côté, c'est pas si évident que ça pour toutes les familles. Ce qui est apparu aussi dans l'enquête, c'est que les familles qui avaient le plus de facilité à se déculpabiliser en laissant une place aux enfants, une place autonome aux enfants, c'était plutôt les familles des catégories supérieures. Et que les familles des catégories modestes semblaient enfermées dans cette idée de... il faut qu'on vive des vacances ensemble, il faut qu'on vive quelque chose ensemble. Il y avait ça aussi qui apparaissait. Il faut qu'on vive ensemble. Et ensemble au sens fusionnel, pratiquement, hein, du terme. Et puis, il faut que je sécurise l'espace dans lequel mes enfants vont passer les vacances. Et que je sécurise leur expérience vacancière. C'était beaucoup moins prégnant chez les autres catégories de familles. Donc, conclure et refermer un petit peu les choses, on pourra revenir sur certains aspects si vous le souhaitez. Il semblerait quand même que les vacances, un temps pour tous, il y avait un point d'interrogation, ou un temps pour chacun, c'était pas un temps pour tous, c'était un temps pour chacun dans le titre. Point d'interrogation, il semblerait que il y a un vrai enjeu à laisser pendant le temps de vacances, une place pour chacun et des moments pour chacun sans forcément que l'autre ait accès à ce que l'enfant a vécu pendant les vacances ou ce que les parents ont vécu pendant les vacances. C'est-à-dire que les vacances, si ça peut être un moment pour souffler et pour vivre quelque chose pour soi, il ne faut surtout pas culpabiliser parce que finalement, chacun des membres du groupe qui est parti va en retirer quelque chose. Et que donc, ça ne doit surtout pas être culpabilisant de laisser ses enfants vagabonder un petit peu et les laisser à eux-mêmes pendant les vacances. Il doit être pile dans le temps, si j'ai vu une minute tout à l'heure.
Voilà. Merci.
Donc, hop. Donc on est...